Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qu'on s'approche ce matin, parce qu'on reconnaît, Seigneur, que tu es notre Dieu. C'est toi qu'on veut servir, Seigneur. C'est toi qu'on veut suivre, parce qu'on a reconnu que Jésus a payé le prix à la croix pour chacun de nous, pour nous appeler à la plus grande espérance qui ne peut pas exister dans ce monde, c'est d'attendre ton retour, puis que tu vas prendre le contrôle de ce monde et établir des jugements sur les nations. C'est pour ça, Seigneur, on veut étudier ta parole, on veut, Seigneur, comprendre ce que tu as à nous dire ce matin, puis qu'on puisse garder ces choses-là dans notre cœur parce que le temps est proche. Puis je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous ce matin. Je remets cette réunion dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. On a commencé une étude il y a plusieurs semaines. C'est une série d'études. On est rendu à la 13e leçon qui est le chrétien et le retour de son Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi que je dis cela dans la suite. Quand on parle de cette étude, c'est une introduction à la vie chrétienne. C'est une étude de premier pas. Ça touche les choses de base. On n'y aura pas si tant en profondeur que ça. Mais si déjà vous comprenez tout ce qui est là, puis moi, ce que je le sais que vous ne comprendrez pas tous en même temps, au début, la première fois, ils allaient entendre tout, je vous conseille d'écrire vos réponses puis de le refaire chez vous afin que ça puisse assimiler ce qui va être dit. Parce que je crois que c'est le message le plus important que nous devons comprendre, à part du fait qu'il faut être sauvé. Le message le plus important de la Bible qu'on doit comprendre, c'est ce qu'on va voir ce matin. Comme j'ai dit, le chrétien est le retour de son Seigneur. Pourquoi qu'on dit ça? Mais on va aller le voir dans la suite. Quel est le message central du Nouveau Testament? 1 Corinthiens 15, ça c'est le message central du Nouveau Testament. Je vous invite à lire ce verset-là dans votre Bible, de prendre votre crayon puis de souligner les lignes les plus importantes de ce verset-là. Si vous voulez pouvoir encadrer le texte, c'est les versets 1 à 5 qu'on va lire ensemble. Je vous rappelle, frères, Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, puis les Corinthiens avaient l'air à oublier ce qui est en train d'être dit dans ce texte-là. Puis Paul, il trouve important de le rappeler. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vais juste faire une parenthèse avant d'aller plus loin dans les autres versets. Quand Paul dit « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai enseigné. » C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est important que je sache dans le Nouveau Testament qui fait que je vais être sauvé, ça dit dans le verset, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Cet évangile-là sauve. Puis les Corinthiens ont besoin de se faire rappeler l'évangile qui sauve. Il est en train de perdre de vue l'évangile qui sauve. Puis qui dit, si vous le retenez tel que je vous l'enseignais, autrement vous auriez cru en vain. Ici, on voit que les Corinthiens sont en train de perdre de vue le véritable Évangile. L'Évangile a été déclaré dans la Bible, puis c'est un sujet bien précis, l'Évangile, la bonne nouvelle. Puis cet Évangile-là sauve des gens, en autant que les gens mettent leur foi dans cet Évangile-là, sans la modifier, la prendre telle qu'elle est, et la garder jusqu'à la fin. Autrement, les gens auraient cru en vain. Le moment dans leur vie qui aurait cru à cet évangile-là, ça n'aurait rien servi si les gens l'abandonnent, ou ils s'en détournent, ou ils s'attachent à un autre évangile, ou carrément ils renient tout évangile, puis poursuivent d'autres choses dans leur vie. Qu'est-ce qui est le message principal de l'évangile? Au verset 3, ça nous le dit. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On voit que l'Ancien Testament avait déjà prévu la mort du Messie pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle, qu'on puisse être sauvé. Il fallait que le Messie paye à la croix de son sang, de sa vie, qu'il meure complètement enseveli. Puis c'était prévu dans l'Évangile qu'il fallait qu'il y ait la mort de l'agneau de Dieu. Qu'il ait été enseveli au verset 4 et qu'il ait ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12, puis son continu est apparu à plus de 500 personnes en même temps dans une situation. L'Évangile n'est pas juste que Jésus soit mort sur la croix. L'Évangile n'est pas juste que Jésus fallait qu'il vienne accomplir ce qui était écrit dans l'Ancien. L'Évangile est aussi que Jésus est ressuscité. L'Évangile, quand tu crois à l'Évangile, tu crois à la résurrection de Jésus. S'il y a des gens qui aujourd'hui pensent dans leur cœur, moi je ne crois pas que Jésus est venu. C'est sûr, en partant, ils sont en dehors de la foi de l'Évangile. S'ils disent « je crois qu'il est venu, mais je ne crois pas qu'il est ressuscité », ils sont encore en dehors de la foi de l'Évangile. Pourquoi que je dis ça? Parce que la Bible est claire. Fallait que Jésus ressuscite et qu'il aille porter son sang devant le trône de grâce, sur l'autel dans les lieux célestes, afin de racheter l'humanité. Puis comme qu'on le sait dans l'Évangile, la Bible nous le dit, la mort ne pouvait pas retenir Jésus captif. Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. La mort avait aucune emprise sur lui. Si Jésus avait fait un seul péché dans sa vie, il ne serait pas ressuscité. Il n'aurait pas pu aller porter son sang. Il n'aurait pas pu être une victime expiatoire pour les autres. Pour qu'il puisse vraiment expier nos péchés et qu'il puisse nous sauver parfaitement, il fallait qu'il meure, c'était annoncé, il fallait qu'il ressuscite, puis il fallait qu'il monte devant son Père. La Bible nous en donne plusieurs preuves, si on lit les Évangiles, on le voit que les apôtres ont été témoins de sa résurrection, ils ont entendu parler Jésus après sa résurrection, ils l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont touché, puis il est apparu à plusieurs reprises pendant 40 jours, puis même à un moment donné, il était à plus de 500 personnes quand Jésus est apparu. Il a donné une preuve évidente qu'il était ressuscité. Puis il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire à Dieu! C'est ça l'Évangile. Vous avez reçu le cadeau à cause de l'œuvre accomplie de Jésus. Puis il est important de demeurer dans cette foi-là, parce que rien d'autre sur la terre peut vous accorder le pardon de vos péchés et d'avoir la vie éternelle. Gardez cette foi-là jusqu'à la fin. Mais les Corinthiens, Paul est obligé de leur ramener cette doctrine-là, parce qu'on voit un petit peu plus loin dans Corinthiens qu'ils ne croyaient plus en la résurrection. Puis Paul leur a dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, ça veut dire qu'on ne ressuscitera pas, ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité, puis votre foi est vaine, puis vous êtes tous encore dans vos péchés. C'est ça que Paul leur explique. On va aller répondre à une deuxième question. Que nous ont enseigné les anges? Oups! Acte 1, à partir du verset 9. Après avoir dit cela, Jésus, là, il était ressuscité, il était présent, puis il parlait avec ses disciples, il avait un échange, il était en train de leur expliquer des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après qu'il leur ait dit ça, il fut élevé. Et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus, pendant qu'il était en train de leur parler, à la fin du 40 jours qu'il leur a parlé, oups, il a commencé à monter, oups, tout le monde le regardait, hey, qu'est-ce qui se passe? Oups, il est disparu dans une nuée, c'est dans un nuage. Puis comme qu'ils avaient tous les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Deux anges apparurent aux disciples et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Wow! Quelle révélation que ces anges-là ont apportée aux disciples. Parce que quand Jésus est mort, ils ont été attristés. Là, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont parlé avec pendant 40 jours, il est encore encouragé, puis whoop, il disparaît. Là, ils sont comme tout inquiétés, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Il nous est enlevé, on le voit plus, il ne sera plus avec nous. Qu'est-ce que l'ange a donné comme explication? Il a dit, pourquoi que vous arrêtez à regarder au ciel? C'est plus votre place, c'est plus votre position que vous devez avoir aujourd'hui de rester fixe à regarder vers le ciel. Ayez comme espérance, ayez comme promesse que ce Jésus-là qui est monté, ce Jésus-là va revenir de la même manière qu'il est monté. Ça, c'est une grande promesse de la Bible, comme je vous disais tantôt. Le fait que Jésus soit venu pour nous sauver, c'est une belle et grande promesse. Mais la deuxième belle et grande promesse, Jésus va revenir du ciel pour qui? Pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Gloire à Dieu! Ayez ça dans votre pensée. Jésus revient bientôt. Ça ne sera pas long, frères et sœurs. V'là 2000 ans, il disait que c'était bientôt, puis on est rendu bien plus bientôt qu'on ne l'a jamais été. Puis chaque journée qui passe, on est encore plus proche de cette journée-là, puis vous allez comprendre des choses importantes dans la suite des versets qu'on va lire. Quels sont les buts? Pourquoi Jésus doit-il revenir? Bonne question. Vous allez voir, toutes les réponses sont dans les versets. Comme j'ai dit, c'est des choses de base. Mais ça parle, ces textes-là. Deuxième Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 5 à 10. Pourquoi que je dis pourquoi? Pour quels sont les buts? C'est parce qu'il y en a plus qu'un but pourquoi que Jésus doit revenir. Puis dans ces versets-là, ça nous en montre des buts. Lisons. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Je vous repose la question, quels sont les buts, pourquoi Jésus doit-il revenir? Ça, ça n'est une réponse. Jésus revient pour rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Jésus revient pour établir les jugements de Dieu sur la terre. Jésus revient pour juger les nations. Quel genre de personnes vont être jugées? Ça le dit dans le verset 8. Il vient pour punir deux catégories de personnes. Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ça nous parle clairement que lors de son retour, il revient pour deux choses, mais là on parle de la première. Il vient pour établir des jugements sur la terre. Jésus est porteur de la colère de Dieu qui est en attente de se faire déverser lors de son retour. Puis il vient pour rendre de l'affliction à ceux qui affligent le peuple de Dieu. Quand on parle d'affliction, on le sait que les chrétiens présentement dans le monde sont affligés dans le sens par les persécutions. Ils se font haïr, ils se font battre, ils se font rire d'eux autres, ridiculiser. Il y en a qui se font mettre en prison à cause de leur foi. Il y en a qui se font tuer à cause de leur foi. Il y en a qui se font rejeter des villes, ils perdent leurs biens. Peut-être vous me dites, « Ah, mais ça n'arrive pas ici au Québec, ça n'arrive pas ici au Canada. » Oui, il y a de la persécution au Canada, mais c'est une autre forme de persécution. Tu vas travailler, si tu t'affiches que tu es chrétien, le monde rit de toi. Il parle dans ton dos. Il ruine ta réputation en inventant des menteries. Ils peuvent te frapper. Ça m'est déjà arrivé de me faire frapper parce que je parlais dans le nom de Jésus. Je me suis pas fait mettre en prison. Peut-être, puis je suis pas encore mort, mais ça ne veut pas dire qu'un jour ça n'arrivera pas, les persécutions contre les chrétiens dans notre pays. Mais pour le moment, on n'est pas à un haut niveau de persécution. Mais les chrétiens souffrent aussi de la conduite criminelle, de voir les gens vivre dans leur débauche. Parce que les chrétiens veulent rechercher la sainteté, la pureté, d'avoir une vie qui est dans la joie, dans le bonheur, tout ça. Puis on est continuellement attristé, affligé de voir comment est-ce que ça va dans ce monde, comment est-ce que la corruption est dans ce monde, comment. Puis ça affecte notre âme au même titre que Lot était affligé de voir les actions de péché dans la ville, dans les villes de Sodome et Gomorre. Puis la ville de Sodome et Gomorre est comme un exemple de ce qu'on vit aujourd'hui. Par rapport que les anges étaient envoyés dans les villes de Sodome et Gomorre, ils ont averti Lot de sortir de là parce que la colère s'en venait sur ces villes-là, puis que le jugement de Dieu t'a pu les frapper. Puis on est pareil dans le même contexte, qu'on peut annoncer aux gens que Jésus revient bientôt, puis il s'en vient pour manifester la colère de Dieu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, parce qu'il y en a qui connaissent Dieu, mais ils ne veulent pas obéir. Il y a deux catégories, ils sont appelés devant Dieu rebelles. Le retour de Jésus va être tranchant, parce qu'une fois qu'il va être revenu, il punit ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis n'ont pas de deuxième chance. Il fallait qu'il soit prêt lors de son retour. Parce qu'il vient pour punir. Il vient pour en affliction. Il ne dit pas, il vient, il s'en retourne, il vient, il s'en retourne, puis là, il laisse des chances encore. Lors de son retour, il vient pour deux choses. On en a vu une qui vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et l'autre, au verset 7, on a envoyé une portion. Il est de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Le repos des chrétiens, il va arriver officiellement au retour de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va vivre tout le temps des repos quand tu es chrétien. Tu as comme une paix intérieure, tu as comme une joie d'être chrétien, tu es heureux d'être sauvé, tu essaies de te réjouir avec les chrétiens, on se réjouit en espérance, on loue le Seigneur, on est content, mais on a mal dans le dos, on a mal à la tête, on a mal dans les bras, on a mal partout, puis notre âme des fois est affligée, on a mal dans notre âme, on souffre, on a des problèmes de cette vie, on souffre le fardeau, les fatigues de cette vie. Puis de toutes les questions, comment est-ce que notre âme est abattue à cause de ce qu'on voit dans notre vie. Fait que, comme Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Puis je pense que les chrétiens, c'est un peu pareil. On n'a pas réellement de place permanente de repos présentement, mais notre repos s'en vient, quand ça? Lorsque Jésus reviendra du ciel pour nous donner du repos avec eux, avec tous les croyants. Gloire à Dieu! Et là, notre délivrance, au moment de son retour, ça va être glorieux, parce que la Bible, elle nous le dit, il va apparaître avec ses anges puissants. Puis on voit des fois des passages dans la Bible, quand un ange apparaît, c'est comme de la lumière. Il éclaire, comme un éclair. Mais là, imaginez Jésus, puis on voit une vision de Jésus dans l'Apocalypse. Son visage, il est comme le soleil dans sa pleine force. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Puis ça dit que ses jambes sont comme de l'airain ardent. De l'airain, c'est un des métaux qui résiste le plus à la chaleur. Mais tellement embrasé qu'il est rendu comme en feu. Imaginez comme les jambes toutes lumineuses, rouges de feu, puis le visage comme le soleil, puis tu peux même pas le regarder tellement qu'il éclaire le ciel de sa présence. Et imaginez des milliards d'anges avec lui qui éclairent le ciel. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient jusque dans l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça dit que dans ce verset-là, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, ça va éclairer le ciel. Toutes les nations vont être en pleurs. Toutes les gens, on va voir des versets tantôt, vont être en train de pleurer, puis à genoux, puis en dessous des roches, cherchant à se cacher, parce que la colère de l'agneau est arrivée, et qui pourra subsister? Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, revient bientôt, et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. La Bible, elle nous dit que nous, on va avoir du repos parce qu'on est affligés à cause du nom de Jésus. C'est à cause de son nom. On pourrait dire, on renie Jésus, puis on vit comme le monde, puis let's go, youpi, il n'y aura plus de persécution. Mais c'est à cause qu'on accepte de prendre la croix de Christ, puis on porte notre croix, puis on s'affiche comme chrétien, puis c'est là que l'opposition commence, pas juste par les hommes, mais aussi par le diable. Par le monde, tu te promènes sur la rue, tu vois des affiches de femmes tout nues. Notre âme est continuellement affligée par qu'est-ce qu'on voit, par la corruption qui est là. Puis on est dans un combat, frères et sœurs, puis notre combat va finir quand? Lorsque Jésus reviendra, pas avant. Au verset 10, il est beau aussi, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Parce qu'il vient pour deux buts. Pour nous donner du repos, parce qu'on l'attend pour l'admirer. Ça va être merveilleux, mais qu'on le voit arriver. Autant qu'on dit à tout le monde, Jésus revient bientôt. Le monde, fâchons-nous pas avec ça. Nous autres, c'est une excitation. Notre roi, le créateur de toutes choses, revient bientôt. Puis on a hâte de le voir. On veut l'admirer dans sa grandeur, dans sa beauté, dans ses éclats, dans sa puissance. Moi, ça m'excite de connaître la puissance de Dieu, puis essayer de m'imaginer sa grandeur puis sa puissance. Puis il dit que Jésus va être admiré dans tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru qu'il est venu, qui est mort sans croix, qui est ressuscité, mais l'attendent pour son retour, puis ils ont hâte de l'admirer. Que se passera-t-il à son retour? 1 Thessaloniciens 4:13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, en parlant de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, on devancera pas ceux qui sont déjà morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia! Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wow! Jésus, il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Jésus nous a déjà dit que lorsqu'il va revenir, tous ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts pardonnés de leurs péchés, ils vont tous ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ressusciter? Retour dans cette vie. On va voir les morts croyants autant qu'on voit Jésus sur une nuée, resplendissant de sa gloire avec tous ses anges puissants qui éclairent le ciel, et tous les morts qui étaient croyants, qui ont donné leur vie au Seigneur pour le suivre et obéir à l'Évangile, ils vont ressusciter pour être sur un nuage, puis ils descendent. Puis nous autres, qu'on va voir ça, on l'admire, on croit, puis on l'attend, puis on va être content, mais qu'il revienne parce que notre délivrance est arrivée. Ça dit, en un instant, en un clin d'œil, nous qui serons restés, on va être enlevés avec eux sur des nuées, et nous serons toujours avec le Seigneur. Pour l'éternité, peu importe ce que Jésus va faire, on va toujours rester avec lui. Puis l'espérance qu'on doit comprendre là-dedans, c'est qu'il y a une résurrection de tous ceux qu'on a connus, puis même ceux qu'on n'a pas connus, qui étaient chrétiens, qui avaient mis leur foi en Jésus pour être sauvés. Ils vont tous ressusciter, puis on va partager ce moment glorieux-là du retour de Christ pour venir juger les nations. Ça se fait tout à son enlèvement, à son avènement. Jésus revient, il apparaît du ciel avec ses anges puissants, puis il apparaît du ciel avec toutes les morts en Christ, puis il s'en vient sur une nuée, puis il nous ramasse avec lui, puis là, c'est l'enlèvement. Ça va aller dans la prochaine étude. Qu'est-ce qui va se passer après pour nous? Mais là, pour le moment, on parle juste du retour du Seigneur. Puis ça, là, la Bible, elle nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les paroles de consolation. Vous avez des proches qui sont morts dans la foi, vous allez les revoir. Quand? Au retour du Seigneur. Qu'arrivera-t-il aux autres morts? Ceux qui ont manqué la première résurrection. Apocalypse 25. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Quand Jésus revient, puis toutes les morts en Christ, ceux qui sont en communion avec l'Esprit-Saint, sont nés de nouveau, sont sauvés, reviennent avec Jésus, ça c'est la première résurrection. Nous, ça dit, en deuxième, on s'en va les retrouver. Fait que la résurrection des morts, nous, on part d'ici, puis on s'en va les retrouver, c'est l'enlèvement. Ça dit que ceux qui ont manqué la première résurrection sont obligés d'attendre les 1000 ans avant qu'ils puissent être ressuscités. Ils n'ont pas eu part première résurrection. Pourtant, la Bible nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » La Bible nous parle d'un temps de règne du Christ sur la terre pendant une période inconnue. Pourquoi je vous dis une période inconnue? Parce que le mot « mille » n'existe pas dans le grec. Non. C'est le mot qui est là veut dire une période. Quand ils ont traduit, ils ont écrit « mille » pour nous donner une idée, mais en réalité, il n'y a pas de temps. Ça peut être 300 ans comme ça peut être 2000 ans. il y a une période que Christ va régner sur la terre. Il y a des choses qu'on doit voir comme un serpent, un bébé va prendre un serpent venimeux qui ne fera point de mal, ou ce que le lion et le mouton vont manger de l'herbe ensemble. C'est un temps où ce que la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre. Il n'y aura plus de mal parce que le diable va être lié pendant ces 1000 ans-là. Christ vient pour juger les nations qui ne se sont pas repenties, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. C'est un jugement. La colère de Dieu va être déversée sur eux. Ce n'est pas là-dessus réellement qu'on va toucher aujourd'hui. Mais il va établir son règne, il va prendre le contrôle. Puis nous autres, à ceux qui ont part à la première résurrection, on va régner avec le Christ pendant cette période-là. Gloire à Dieu. Là, on a vu qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Parce qu'il est à mort, il aura pu être ressuscité s'il serait mort sur le bon bord, pardonné, né de nouveau. Mais vu qu'ils sont morts, s'il n'était pas en communion avec l'Esprit-Saint, il ne faisait pas partie des élus de Dieu, ils sont en attente, puis ils vont ressusciter qu'à la fin. Puis ça, on va le voir dans la prochaine étude. Qu'arrivera-t-il? Et que dira Jésus à ceux qui ont manqué l'enlèvement? Là, on parle de ceux qui sont sur la terre lors de son retour. Les morts, il y en a une batch qui ont manqué à la résurrection, parce qu'ils n'avaient pas été prêts quand ils sont morts. Mais nous, tous ceux qui l'attendent, là, on est une multitude de toutes les nations qui attendent le retour de Jésus. Mais il y en a là-dedans qui sont en communion avec l'Esprit-Saint parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont cru en son œuvre, puis ils ont reçu le pardon. Mais les autres qui ne l'ont pas reçu, qu'est-ce qui va leur arriver? Matthieu 25, 1 à 13, regardez bien ce passage-là, ça parle du retour de Jésus là-dedans. Ça nous parle qu'il y en avait 10 qui l'attendaient. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Matthieu 25, 1 à 13. Ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux, 5 étaient sages, et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant de leur langue, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Ça, c'est le retour de Jésus. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il leur dira, « Je vous le dis en vérité, je vous connais pas. » Puis Jésus rajoute, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prêché plusieurs sujets là-dessus avec ces paraboles-là. Moi, ce que je veux retenir, c'est ce que je crois qui faisait partie d'une explication pour expliquer un contexte juste avant le retour de Jésus, parce que vous savez que dans Matthieu 24, Jésus a parlé de son retour, il a parlé des cataclysmes qu'il y aura sur la terre juste avant son retour. Puis Matthieu 25, tout de suite là, ça nous parle de son retour, dans cette parabole-là. Il nous dit clairement, ça peut arriver qu'il y en a qui s'endorment, mais l'important, c'est quand il va arriver, qu'on soit prête, qu'on soit plein d'huile, en train de l'attendre. Parce qu'il dit, celles qui étaient prêtes sont entrées. Puis après ça, la porte fut fermée. Lors du retour de Jésus, Jésus ramasse les celles qui sont prêtes. Après ça, la porte est fermée. Puis ça dit, il y en a d'autres qui vont vouloir entrer. C'est ça que ça dit. Les autres sont revenus en cognant, « Seigneur, ouvre-nous! » Je vous connais pas. Ils ont manqué l'enlèvement. Ils n'étaient pas prêts. Puis Jésus nous avertit, « Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure qu'il va revenir. Vous ne savez pas quel jour qu'il va revenir. Veillez donc, soyez prêts. » retardez pas pour mettre votre vie en règle, pour dire, Seigneur, je crois, puis je veux que ma coupe soit remplie de ton huile pour le reste de ma vie, puis je veux demeurer dans cette huile-là afin que ma lampe brille. Si vous perdez votre communion avec le Seigneur, il est grandement temps que vous refaisiez tout ce qui est nécessaire pour retrouver votre communion, pour être rempli de son huile, afin que votre lampe brille. Pensez pas de vivre votre vie chrétienne dans votre chair. La vie chrétienne se vit remplie du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre manière, c'est là que tu brilles. Puis il y a une seule manière de recevoir l'Esprit, c'est si tu reconnais que Jésus est mort sur la croix, puis tu le confesses de ta bouche en te repentant, tu t'engages à le suivre, il te donne son esprit, il y a une nouvelle vie qui commence, t'es né de nouveau. Après ça, reste dans le chemin resserré qui mène à la vie. Éloigne-toi pas, change pas de chemin, persévère jusqu'à la fin. Gardez la parole, mais ce qui nous maintient dans l'huile, c'est son onction, c'est sa présence, c'est l'Esprit. L'Esprit veut nous conduire dans son chemin. Gardons le contact avec l'Esprit de Dieu, en demeurant dans sa parole qui est le chemin. Parce que si tu t'éloignes du chemin, tu vas perdre le contact. C'est clair. Il y a d'autres versets qui en parlent, mais c'est pas mon sujet que je veux parler ce matin. Que doit-on annoncer aux gens qui nous entourent? On est encore là, on le sait que Jésus revient, ça va être tranchant, il vient pour juger nation, il vient punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas, puis il vient en même temps nous consoler, nous sortir de nos afflictions en nous donnant du repos. Au moment où il va venir nous chercher, on va aller le retrouver pour être avec lui pour l'éternité. Mais qu'est-ce que je dois dire aux gens? Luc 13, 24. C'est encore Jésus qui parle, puis moi je pense que ces paroles-là, il ne faut pas les négliger. Puis ça, là, ce verset-là là, que je vais vous lire dans 13-24, ça confirme ce que je viens de vous dire dans la parabole de les 10 vierges. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit annoncer aux autres? Efforcez-vous. Mettez tous vos efforts d'entrer par la porte étroite. Est-ce quelqu'un qui sait c'est qui ou c'est quoi la porte? Jésus dit, je suis la porte. Mettez tous vos efforts, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite pendant que c'est encore possible. Car je vous le dis, c'est là que c'est grave. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand ça que ça va arriver, qu'il va y avoir un moment, qu'il y a du monde qui va, « Oui, Seigneur, je le crois que tu es vivant, je le crois que tu es Dieu, mais ça n'aura aucun effet. Le repentir n'aura aucun effet, puis ils pourront pas rentrer dans la porte. » Quand ça, ce moment-là va arriver, verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé, » ça c'est le retour de Jésus, « et aura fermé la porte, » on parle encore que la porte va être fermée, et que vous, étant dehors, commencerez à frapper en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Wow! Ça, là, si ça vous fait, ça ne vous donne pas une petite frousse, moi, ça m'ébranle. Il y a un moment que, lorsque le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte, c'est ça que la Bible a dit dans les 10 vierges, celles qui étaient prêtes entrèrent et la porte fut fermée. Après l'enlèvement, essayez plus de penser que les autres vont avoir une chance de se convertir. Il n'a pas de chance de se convertir. Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas. Si on manquait l'entrée, même s'il sera en larmes, puis en pleurant, en jeûnant, s'arrachant les cheveux, déchirant leurs vêtements, puis en se couvrant de poussière, il n'y a aucune repentance qui va être possible pour revenir à Jésus. Il nous dit dans le début de ce verset-là, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Faites un effort d'entrer. Efforcez-vous de tout votre cœur d'entrer, puis restez dans cette porte-là, parce que la Bible, elle dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Ça nous parle d'une autre porte qui est large, est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte. Une petite porte. Ça s'appelle Yeshua. Jésus. Tu rentres par Jésus, puis tu demeures dans son chemin resserré. C'est là qu'il faut que tu tiennes quand il va revenir. Parce que si tu retournais dans l'autre, ou si tu n'avais jamais fait un effort pour dire, là, c'est bien beau, je suis fatigué, c'est bien beau, j'ai travaillé toute ma semaine, bien moi, je pose Dieu en premier dans ma vie, puis je veux le suivre, puis je veux le servir, puis je vais y aller à l'église, je vais y aller travailler dans sa vigne au Seigneur, parce qu'il veut faire de nous ses ouvriers. Travailler avec lui pour sa gloire, porter du fruit pour sa gloire, il s'attend à ce qu'on devienne des suiveurs, des chrétiens, ça veut dire suiveurs du Christ. Il s'attend à ce qu'on change de vie, qu'on le suive, qu'on marche avec lui. Puis quand tu crois qu'il est le sauveur, attends pas à demain, tu ne sais même pas s'il va en avoir un demain. Si Jésus arrive ce soir, ou même s'il n'arrive pas ce soir, allez-vous être encore vivant ce soir? Vous n'êtes même pas sûr que votre vie ne vous appartient pas. Le temps que vous êtes dans votre corps présentement, c'est du temps prêté. Il n'y a rien qui vous est donné. Vous marchez sur du temps emprunté, qui appartient à Dieu, puis qu'il va le retirer n'importe quel temps. C'est lui qui décide le jour de notre mort. L'important, c'est d'être prête quand il vient nous chercher. Parce qu'après ça, même si on criera, qu'on pleurera, qu'on dira on le sait, trop tard. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le temps du salut. La Bible dit aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que doit-on annoncer aux gens? La réponse est claire. Vite! Donne ta vie au Seigneur! Repens-toi, engage-toi à le suivre et à le servir, mets ta vie en règle, afin que tu sois sûr de faire partie de ceux qui sont sauvés, de ne pas manquer l'enlèvement, ou même mourir dans tes péchés qui seront aussi graves, afin de t'assurer d'avoir ta place dans la vie éternelle. Quel est le moment exact de son retour? Matthieu 24, 36. La Bible nous parle-tu quand est-ce ça va arriver, son retour? Jésus répond, Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Quelle journée que ça va arriver? Là, t'en as des gens sur la terre, ils font des pronostics. 2012! Ah, il suffit sur le calendrier Maya, qui n'a même pas rapport avec la Bible ou avec la foi en Jésus. Il y a des gens qui sont comme mélangés dans cette vie. Il suffit sur les films qu'ils voient à la TV. Il suffit sur les pronostics d'astronomie, puis d'astrologie, puis de médium, puis il suffit sur tout ce qui est annoncé dans ce monde, qui n'a même pas rapport avec la Bible. Même Jésus, quand il était sur la terre, ne savait même pas quelle date. Et vous savez encore, il y a un autre verset qu'on voit dans la Bible, ça nous dit, « Le Seigneur tarde afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Il peut même étirer le temps pour donner une chance à ses brebis de se mettre en règle. Dans ce verset-là, ça ne s'adresse pas aux païens, aux gens du monde. Ça s'adresse à l'Église. Il est en train de parler à des gens de l'Église quand il a dit ça. Puis il dit, il étire le temps pour donner une chance aux derniers à mettre leur vie en règle pour qu'aucun périsse. Puis il y a un autre verset qui nous dit, il faut que premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça veut dire qu'il faut que la parole de Dieu soit répandue, puis qu'il y ait des hommes sauvés de chaque tribu, de chaque peuple, de chaque langue, de chaque nation, parce qu'il y a une vision dans l'Apocalypse qui dit qu'il a vu une vision avec des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation qui tiennent devant le trône. Ça veut dire qu'il y en a au moins un de sauvé dans chaque... Le... Mais que ça arrive, il va redescendre. Mais que la dernière brebis soit arrivée, là, la celle que lui avait prévue dans sa science, dans sa préscience, il savait que c'est qui serait le dernier à rentrer, puis mais que ça arrive, slam, toutes les choses, le royaume du monde vont être remis à notre Seigneur, à son Christ, puis il va prendre le contrôle, puis c'est le temps de juger nation. Mais on ne sait pas quelle date. Faut éviter d'essayer de faire des pronostics puis de dire des dates. On est en train de se caler. Comment est-ce qu'il y en a de religions qui ont essayé d'en mettre des dates? Les témoins de Jéhovah font au moins 3 fois qu'ils changent la date du retour de Jésus. Ça donne à rien. On peut pas le savoir. Même les anges le savent pas. C'est le Père qui va décider lui-même de sa propre autorité. Mais, petite parenthèse, ça veut pas dire que Jésus le sait pas là. Il savait pas quand il était sur la terre. Parce qu'il était comme limité dans la personne où ce qu'il était. Il n'était pas dans sa plénitude. Mais quand il a été ressuscité, il a été rempli de toute la plénitude de Dieu, de celui qui remplit tout en tous. Il a retrouvé l'omniprésence, l'omnipuissance et son éternité. Mais il avait l'éternité, mais son, tout ce qui contient dans tous les attributs de Dieu, il a retrouvé ça après sa résurrection. Mais c'est ça que là, il disait sur la terre qu'il ne savait pas, mais là, il sait quelle date que c'est, parce qu'il est toute la connaissance de Dieu, il est Dieu. Gloire à Dieu. Comment peut-on savoir le moment afin d'être prêt? Mais Matthieu 24, 32-35, Jésus nous instruit encore. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que je dois comprendre dans cela? Il est en train de me dire, on est capable de prévoir que l'été s'en vient quand tu vois que les branches qui étaient secs pendant l'hiver, à un moment donné, ils commencent à revenir tendre. Puis là, ils commencent à sortir des bourgeons. Tu sais que l'été s'en vient. Tu vois des signes que l'été s'en vient. Tu peux même affirmer que l'été s'en vient, mais tu peux pas dire quand. Mais tu as quand même une idée parce que tu vois que tout se prépare. Mais il dit de même quand vous verrez ces choses-là arriver. Quelle chose? Les signes que Jésus lui-même nous a mentionnés dans les Évangiles et dans l'Apocalypse, puis certains signes dans l'Ancien Testament. Il y a des signes qui démontrent vraiment, avant qu'ils reviennent, il va se passer ça. Fait que moi, je peux pas savoir à quelle date que ça s'en vient, mais je sais qu'il doit s'accomplir tel signe. Ah, ça, on le voit. Des tremblements de terre en divers lieux. On le voit. Des guerres, des nations contre des nations, des royaumes contre des royaumes. On voit des pestes, des famines. On voit plein de signes. Mais il y a certains signes qui sont pas encore arrivés, qu'on attend, puis ça peut arriver bien rapidement. Qu'est-ce que ça va nous annoncer de voir ça? Mais on le sait que ça s'en vient. Mais même si ça sera dans 5 ans, je vais-tu attendre que le dernier signe qui arrive pour pouvoir être sûr de l'accepter avant de qu'il revienne? Ou bien, je sais même pas si je vais me rendre là, moi, dans 5 ans. Je vais-tu vivre encore dans 5 ans? Ça peut être aujourd'hui ma dernière journée. Je peux m'en retourner en char et voilà, je suis mort. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je sois en règle. Il n'y a pas de moment à attendre. Si t'entends sa voix, repens-toi, confesse tes fautes à Dieu, demande-lui pardon, demande-lui son esprit qui te renouvelle en sa présence, puis engage-toi à le suivre, à le servir pour le reste de ta vie, parce que tu ne sais pas si tu vas être encore là demain. Là, on va aller lire 2 versets pour voir quelques signes annoncés avant son retour, puis je veux qu'on les compare parce que c'est pas mal pareil. T'en as un en passage dans Matthieu, puis c'est sûr que ça complète pas tous les signes, mais c'est juste pour nous mettre comme faut s'attendre que ça soit un petit peu plus pire que qu'est-ce que ça arrive avant son retour. Matthieu 24, verset 29. Tu savais le passage qui dit qu'il y aura une grande tribulation sur la terre. Ça, c'est dans Matthieu 24. Un petit peu avant ce verset-là que je vais vous lire. Puis là, ce verset-là nous dit « Aussitôt après ces jours de détresse ». Là, je vous mets dans un contexte, là, que aussitôt après les jours de détresse, ça veut dire qu'il faut que la grande tribulation, elle arrive, puis après ces jours de détresse, il va se passer d'autres choses. Qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt après les jours de détresse, le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec grande gloire. Wow! Ça veut dire, si je suis Matthieu 24, tout le monde parle de la grande tribulation. C'est loin d'être la fin des grandes tribulations. Parce qu'après ces jours de tribulation, le soleil, il va se passer de quoi dans le soleil? Le monde sont bien inquiètes. Il y a des scientifiques qui examinent le soleil présentement. Puis ils voient que le soleil a perdu de sa puissance. Tu sais, il y a des explosions sur le soleil. Puis dernièrement, là, il y en a manqué plein pendant une longue période. Il n'y en avait presque plus, puis c'était anormal. Puis là, après ça, ils voient des grosses explosions plus fortes que d'habitude. Fait que là, il se passe des signes dans le soleil, puis on peut s'attendre de quoi encore plus pire que ça. Il y a d'autres passages qui parlent dans l'Ancien Testament, comme là, il dit qu'il ne donnera plus sa clarté. Il va se passer de quoi dans le soleil? La lune non plus. Fait que le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Des pluies de météorites comme qu'ils n'ont jamais vu. Il faut s'attendre qu'il y en a une dans l'Apocalypse qui parle quand elle va tomber dans la mer, avec à cause qu'elle s'appelle l'amertume, ça va tellement être... c'est comme si elle contient quelque chose de contaminant qui va contaminer la mer en entier. Toute forme de vie va périr dans la mer à cause qu'une étoile va tomber dans la mer. Fait que ici, il parle, les étoiles tomberont du ciel, puis la puissance des cieux va être ébranlée. Puis là, après ça, on va voir Jésus revenir. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Des passages exactement qui parlent de la même affaire. Puis je vais vous faire un petit point après ça à la fin. Apocalypse 6, 12. Puis regardez quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir. Même chose que Jésus a dit. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. La même chose que Jésus a dit. Comme lorsqu'un figuier est secoué par le vent violent qu'on jette ses figues vertes. Tellement, il dit que ça va tellement ébranler la terre quand les étoiles vont tomber que c'est comme si tu prends un arbre qui est vert. Normalement, il ne paye pas ses fruits, un figuier qui est vert. Mais ça va tellement ébranler la terre quand ça va arriver par les secousses que tu vas voir, comme si tu branles un figuier vert et que les figues tombent à terre, mais il dit les étoiles vont tomber, la même chose. Des pluies de météorites comme tu n'as jamais vu. Ça dit que le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule. C'est ça qu'on dit dans l'autre. Jésus dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Il va y avoir un tremblement de terre tellement grand sur la terre. Là, on a des petites secousses à 7, 8. Mais là, ça va être tellement puissant dans cette période-là que les montagnes vont être changées de place, puis les îles avec. Ça va changer la map du monde par la grandeur des tremblements de terre qui s'en viennent sur la planète. Puis là, ça dit que les rois, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. parce que les montagnes se sont écroulées en rochers. Ils vont se cacher en dessous de ça, les chefs militaires. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Les nations entières qui sont sur la terre vont être dans une angoisse et dans un tourment, sachant que la colère de l'agneau est arrivée. Il y a un autre passage dans l'Ancien qui parle que quand le Seigneur va arriver, ça ne sera pas un jour de réjouissance, ça va être un jour de ténèbres quand Jésus va arriver. Les cataclysmes vont être tellement puissants, tellement graves, que les gens vont avoir perdu toute espérance de vie. Si Jésus n'aura pas abrégé ça, personne ne sera sauvé. Tout le monde sera mort sur la planète. Ça va être tellement grave. Déjà, là, le monde part de contrôle. La fonte des glaces, les tsunamis, des tremblements de terre, des villes sont dévastées, des centaines de milliers de morts. Ce n'est que le commencement des douleurs. Des guerres, des bruits de guerre. En tout cas, il y en a des signes qui parlent de la venue du Messie. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez que votre délivrance est proche. Mais il y a des choses encore qui doivent arriver. Ça, c'est juste comme pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. On a l'eau à la bouche de ce que Jésus revienne, mais pas nécessairement de voir tous ces cataclysmes-là tomber sur la terre. Mais autant que les gens qui vivent les tremblements de terre présentement sont pas emballés de joie de vivre les tremblements de terre quand ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur job, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, même leurs identités, ils savent, ils ont plus rien de registre de leur vie, ils sont complètement à nu, ils ont même pas rien à manger, ça fait plus qu'un an qu'Haïti est ébranlé par un tremblement de terre, puis ils ont encore rien à manger, ils ont même pas enlevé les débris. Il y en a qui vivent des choses incroyables comparées à ce qu'on vit ici présentement. Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, puis on va voir d'autres choses qu'il nous dit de faire dans son attente. Que dit la Bible face à cette attente? On attend, on a hâte qu'il arrive. Mais qu'est-ce que dit la Bible de faire en attendant? 2 Pierre 3:11. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles choses qui doivent se dissoudre? Mais la planète et les œuvres qu'elle contient vont être consumées. Détruites par les cataclysmes. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire dans Apocalypse 6, pour vous donner une petite idée de ce que je pense, c'est que c'est à la 6e trompette qu'on voit que les étoiles, puis ici, puis les ça, pas trompette, excusez, les 6e sauts. Fait que regardez le saut 1, saut 2, saut 3, saut 4, saut 5, puis un autre verset nous dit qu'à son retour, ça va être à la dernière trompette qui va avoir la résurrection des morts, l'enlèvement. Fait que il y a 7 trompettes, il y a 7 sauts et 7 trompettes à arriver. Allez lire ça, puis allez regarder c'est quoi les cataclysmes qui vont arriver à chacune d'elles. C'est des signes que Dieu donne. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, on est en 2 Pierre 3, quelles doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Qu'est-ce que devra être notre conduite en attendant? Moi, je vois 2-3 choses. Sainteté dans votre conduite et dans votre piété. Sanctifions-nous. Séparons-nous du monde, séparons-nous du péché, de nos convoitises charnelles, séparons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu afin de mettre notre vie en règle. C'est de la sanctification, ça. Puis dans piété, devenez des gens qui prient, puis qui reprient. Qu'on soit toujours en train de parler à Dieu puis garder ce contact-là. Puis qu'est-ce qu'on doit demander dans nos prières? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Je dois l'attendre. Vite, Seigneur, on a hâte que tu arrives et je dois le hâter. C'est quelque chose que je devrais avoir hâte en tant que chrétien, que Dieu vienne prendre le contrôle. Oh, mais Seigneur, ça presse pas, je viens de m'acheter un char, j'en ai profité, je viens de m'acheter une nouvelle guitare, je viens de m'acheter une belle maison, je vais en profiter, reviens pas tout de suite, je vais prendre mon temps. Ou j'ai plein de belles filles que jouer en vue, faut que j'aille les conquérir. Ou j'ai plein d'autres sortes de convoitises qui m'attirent dans ce monde et qui m'empêchent de me sanctifier, puis de devenir un homme pieux, un homme qui prie. Puis de se mettre à hâter, il faut avoir hâte, Seigneur, vite! Viens en finir, on a hâte que tu arrives. Puis tu mettes un terme au temps des nations, puis que ton temps à toi embarque. Ça venait un autre des signes. Que devrions-nous inclure dans notre prière quotidienne? À tous les jours, on serait supposé être en train de prier. Qu'est-ce qu'on devrait rajouter comme sujet de prière? Jésus en a parlé à ses disciples. Ses disciples sont venus à Jésus et disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Quels sont les premiers points? Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que les nations puissent se rassembler à se tourner vers toi et à sanctifier ton nom. Qu'il y ait un réveil mondial, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. On devrait être en train d'ôter le retour de Jésus pour qu'il prenne le contrôle, que son règne à Dieu vienne. Ça fait partie de la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Dépêche-toi, Seigneur, ce que ces nations-là puissent se convertir, puis que ton règne vienne s'installer. On a hâte que ça arrive. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'elle l'est au ciel. Viens prendre le contrôle, puis que la rébellion cesse dans ce monde. Enlève les méchants, puis que les justes puissent se réjouir puis régner sur cette terre. Ça devrait être notre prière tous les jours. L'exemple que Jésus a enseigné ses disciples à prier. J'achève. Comment le chrétien doit-il se préparer? Luc 21. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il parle à du monde qui marche en contact avec Dieu, là. Il parle à des chrétiens, là, dans ce verset-là. Il parle à ses disciples. Puis il parle du retour de Jésus dans ce verset-là. Puis il dit, en attendant qu'il revienne, là, prenez garde à vous-même que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, puis que ce jour-là vienne à l'improviste sans que ça arrive, sans que vous soyez prêts. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle devrait être notre attitude à nous qui sommes rendus à la fin des temps? Prière, consécration, rejet, sanctifions-nous, hâtons le jour, faisons attention de venir froid face à Dieu, de venir apesanti, de venir lourd, ça ne nous tente plus, on n'a plus l'énergie de servir Dieu, ça ne nous tente plus d'aller à l'église, ça ne nous tente plus de prier, ça ne nous tente plus de lire la Bible, ça ne nous tente plus de me sanctifier, ça ne nous tente plus d'évangéliser, ça ne nous tente plus de travailler à édifier mes frères et sœurs, ça ne nous tente plus de porter du fruit pour Dieu, je suis rendu écrasé, abattu, à cause que je convoite plein d'affaires, puis mon cœur est devenu froid. Le contraire de tout ça, sanctifions-nous, purifions-nous, marchons dans la crainte de Dieu, excitons-nous aux bonnes œuvres, aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Allons à l'église, lisons notre Bible, prions les uns pour les autres, encourageons-nous à persévérer, parce que Jésus revient bientôt, puis ça va être laid quand ça va arriver, puis il va être prêt à avoir la force pour tout surmonter, puis de paraître debout sans avoir abandonné. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est encore dans Matthieu que Jésus a dit ça. Dans les... Quelle sera la différence entre ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent? Là, on parle à des chrétiens là-dedans. Matthieu 24, versets 45 à 51. C'est le dernier verset. Là, dans ces versets-là, pensez pas que ça s'adresse aux gens du monde, ça s'adresse aux chrétiens. À ceux qui sont appelés serviteurs. Des serviteurs du Seigneur. Et on va voir dans ce verset-là deux attitudes différentes comme serviteurs. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, oups, ça c'est le retour de Jésus, il trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Présentement, le Seigneur a donné des dons à ses serviteurs. Chacun de vous qui appartenez au Seigneur, vous avez reçu des dons. Puis le Seigneur s'attend à ce que vous faisiez, mettiez ça au service de faire profiter les autres qui sont autour de vous, en particulier ses disciples. Vous avez des dons pour l'Église, pour son corps, pour la croissance de son corps, puis pour aller chercher les nouveaux, mais en même temps pour s'entraider les uns les autres. Puis ça, c'est Dieu qui nous établit. Pour avoir de quoi donner aux autres qui sont autour de nous. Qu'est-ce que Jésus va faire quand il va arriver, puis qu'il nous voit en train de travailler dans son œuvre? Il va être excité, rempli de joie. Il va dire à son serviteur, il dit, « Je vais t'établir sur tous mes biens. » Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur va être fier de voir que ses serviteurs sont en train de travailler, puis de forcer, puis un effort, puis ça coûte de quoi être chrétien, puis de vouloir travailler dans l'œuvre, puis de s'investir de plus en plus, puis quand Jésus va revenir, puis nous voit en train de faire ça, il va nous établir sur tous ses biens. Là, on voit une deuxième partie dans ces textes-là, mais si c'est un méchant serviteur, il dit en lui-même, « Mon maître, il tarde à venir. Ça prend du temps avant que Jésus revienne. » Là, il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Il dit, « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y en attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, puis il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est pas moi qui ai inventé ce verset-là. Ça fait partie de la Bible. Ça nous parle clairement que lorsque Jésus va revenir, si ceux qui s'étaient engagés à suivre le Seigneur ont abandonné parce qu'ils sont découragés, puis ils disent « ça prend du temps », ils sont retournés dans leurs anciennes vies, ils sont dans des bouches, ça mange et boit avec les ivrognes, ça bat même les serviteurs du Seigneur, ils se rebellent contre tout ce qu'ils entendent à propos de Dieu parce qu'ils ont le cœur refroidi et endurci. Au lieu de revenir au Seigneur, ils persévèrent là-dedans jusqu'à temps que Jésus revienne. Ça nous dit dans le texte que Jésus va revenir le jour que la personne ne s'en attend même pas, puis il n'y aura même pas de deuxième chance. Ce personnage-là va être pris puis il va être jeté dans les ténèbres du dehors. Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on aimerait que le Seigneur nous traite à son retour? Moi, quand Jésus revienne, la seule chose qui m'intéresse, mais que je le vois sur un nuage, je vais être excessivement content de le voir tonter, mais moi, c'est son visage. Quand il va me regarder, il va-tu avoir un sourire? Il va-tu me regarder rempli de joie, puis me dire, entre dans la joie de ton maître? Ou s'il va me regarder avec un visage sévère, méchant serviteur et paresseux, puis qui va me mettre en pièces, puis va me garrocher de voir avec les hypocrites. C'est du sérieux, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas terminée. Elle va être terminée quand on meurt ou quand Jésus va venir nous chercher. D'ici à ce temps-là, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut continuer à garder le bon combat, combattre pour les choses de Dieu. Il faut sanctifier, mettre nos vies en règle. Il faut se repentir. Il faut garder le contact avec l'huile pour être rempli de son huile. Il faut marcher dans l'obéissance en persévérant jusqu'à la fin parce que cette force-là qu'on va chercher, quand on prie, elle va nous donner la capacité de rester debout jusqu'à temps que Jésus revienne. Si on ne va pas chercher cette force-là, on ne passera pas les épreuves. La Bible, elle parle que dans la fin des temps, puissance d'égarement, apostasie, parle de la charité du plus grand nombre qui se refroidira. On veut-tu faire partie de ceux qui sont debout ou de ceux qui sont tombés? On va faire un appel, finir cette réunion-là. S'il y en a dans votre cœur, que vous sentez qu'il y a un appel du Seigneur, c'est pas pour rien que je parle de ces sujets-là. Le Seigneur veut réveiller son Église. Il veut que les gens se sanctifient, qu'ils se mettent à part pour lui, qu'ils marchent comme des saints, comme la Bible nous l'enseigne, puis qu'ils mettent leur vie en règle, puis qu'ils deviennent chrétiens avec une attitude de persévérer jusqu'à la fin. Si vous êtes touché par ce que je vous entends, puis c'est pas... Puis que vous voulez mettre votre vie en règle, je fais un appel, avancez-vous en avant, on va prier avec vous. Puis s'il y en a que c'est la première fois qu'ils entendent un message qui dit « Oh ben, je savais pas que j'étais pécheur, je savais pas que j'étais pas dans le chemin, mais là aujourd'hui, tu sais que ce chemin-là est devant toi. Jésus il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que tu sois pardonné de tes péchés, pour te donner la vie éternelle, pour te donner... Cet appel-là, ça lui a coûté de sa vie. Si tu entends comme Dieu qui frappe à ton cœur, puis tu te sens qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, puis tu t'es ébranlé, puis tu voudrais l'accepter comme ton sauveur, je te demande de t'avancer en avant, on va prier avec toi. Pour ceux qui se sont froidis dans leurs ailes, que vous sentiez que ça commence à être long d'être chrétien, puis que mon maître tarde à venir, puis on s'est relâché, puis on s'est laissé aller. On n'a pas abandonné, mais on s'est relâché. Je vous invite à vous remettre en règle encore ce matin, de vous avancer en avant, on va prier avec vous. L'important, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend sa voix, on n'endurcisse pas notre cœur. Mais on se tourne, on l'accepte. On s'en fout que de prendre position devant les humains et de dire « Oui, je l'aime le Seigneur, puis oui, je veux le suivre, puis je veux le servir, je veux devenir un de ses disciples, puis je vais annoncer sa parole par tout ce que je pense. » Avancez-vous en avant, on va prier ensemble. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Je te remercie pour ta parole qui rouvre nos yeux, qui nous éclaire sur une situation qui va se produire dans pas long. Je le sais, Seigneur, que ça va être grave sur la terre. Mais pour nous, Seigneur, on veut marcher en contact avec toi. On veut être rempli de ta force, puis d'avoir cette force pour tout surmonter puis de paraître debout. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Je te demande de nous remplir de ta présence, de nous revêtir de ta puissance, de manifester tes dons à travers de nous, puis d'agir dans ce monde. Utilise-nous, conduis-nous dans ce chemin-là, qu'on puisse se sanctifier, qu'on puisse se séparer de ce qui nous entoure pour marcher de plus en plus d'une manière que te soit agréable. Et de porter du fruit pour la gloire de ton nom. Je demande que ton Saint-Esprit puisse toucher chaque auditeur, même ceux qui sont sur Internet, puis que les gens puissent être renouvelés dans ta présence et fortifiés par ton esprit, et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure de ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen.